Bonjour et bel après-midi. En ce samedi 27 avril 2013, bienvenue à ce groupe autour de la non-dualité, autour des enseignements d'un cours en miracle et de beaucoup d'autres ouvrages qui parlent de cette vérité qui dit nous sommes un, malgré des aspects flagrant pour nous de séparation. Dans la profondeur des choses, dans notre essence, nous sommes un, nous sommes unis avec le tout. Voilà, je commence par un petit son de cloche pour que dans cette unité-là, nous commencions à écouter ce son. Merci. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux nombreux frères et sœurs qui par la suite écouteront l'enregistrement, soit parce qu'ils sont loin, soit parce que c'est plus confortable depuis chez eux. Et tout cela n'a pas d'importance, mais fait que le groupe est bien plus grand qu'il n'y paraît maintenant. Alors je vais donner quelques directions sur ce thème que j'ai résumé aujourd'hui avec une phrase cultiver le bonheur d'être soi, s'intérioriser, d'aller dans l'introspection et puis de trouver ce qui est immuable en soi, ce qui est invulnérable en soi, ce qui est un avec toute chose en soi. Et je vais donner quelques directions, quelques questions, quelques autres questions qui ne sont pas issues d'un cours en miracle et qui vont pouvoir nous donner des idées ou des directions de partage pour cet après-midi. Alors, dans ce que j'ai perçu, il y a comment mieux percevoir notre véritable nature, comment pacifier notre vie avec le vrai pardon, quel est le sens du mot Dieu dans la non-dualité, comment puis-je choisir d'être heureux dans ma vie plutôt que d'avoir raison, comment identifier l'ego comme étant la croyance que je suis séparé des autres? Quel est le pouvoir divin de nos intentions? Ce que je vois du monde n'est qu'un reflet de mes pensées. Deux niveaux de perception selon un cours en miracle, c'est réalité d'une part et illusion de l'autre. Comment être dans le monde de la dualité sans en être? À quoi sert le scénario de nos vies sur Terre? Comment la vraie guérison peut être de l'esprit? Quelle est la nature du voile de séparation que nous portons en nous en tant qu'humains? Qu'est-ce que le plan divin pour l'humanité? Comment je peux apprivoiser l'ego pour le remettre à mon service? Et comment le monde subtil peut être à nos côtés en permanence pour nous fournir de l'aide? Voilà, c'est une série de questions, il y en a certainement bien d'autres, mais c'est quelques directions qui nous parlent de l'unité, qui nous parle d'un monde que le cours en miracle appelle réel, face à un monde que nous connaissons bien, que le cours en miracle appelle illusoire, que le bouddhisme appelle samsara, par rapport au nirvana qui est la réalité. Alors, il y a aussi un résumé de cet ouvrage de 1300 pages, Un cours en miracle, qui tient en quelques phrases et qui est assez porteur pour moi sur la signification et le sens de cet ouvrage. Il a été donné par Kenneth Wapnick, un des premiers enseignants d'un cours en miracle. Alors, il énonce ceci, « Un cours en miracle nous propose une nouvelle façon d'être dans ce monde de rêve qui va bien au-delà de toutes les morales et règles de conduite auxquelles le monde rend hommage. Cette nouvelle façon d'être nous demande de devenir conscient des pensées de notre esprit faux, puis de demander de l'aide pour passer à la correction qui se trouve déjà dans notre esprit juste. Afin d'accomplir cela, nous devons mettre notre ego de côté et lâcher prise de tout désir, valeur morale ou investissement en un quelconque résultat qui touche à la conduite, les règles ou les attentes. » Voilà, ça, c'est un petit passage qui est extrait d'un livre qui s'appelle « Questions et réponses sur un cours en miracle », un petit livre par Gloria et Kenneth Wapnick aux éditions Octave. Et ça donne quelques réponses très concrètes sur la vie quotidienne de comment cet enseignement peut s'intégrer dans notre vie de tous les jours. C'est assez intéressant et puis surtout ça peut être une introduction pour lire l'ouvrage ou autre chose, d'autres enseignements. Alors, dans la non-dualité, il y a une phrase qui revient en permanence. Elle est très courte, elle est percutante. Pour certains, elle est incompréhensible. Et je l'ai dit, elle contient juste deux mots. Et cette phrase, c'est « Dieu est ». Dieu est, ça signifie que Dieu est tout ce qui est. Ça veut dire qu'à part Dieu, il n'y a rien d'autre. Et Dieu n'est pas pris dans son sens religieux, dans son sens dogmatique, mais plutôt dans son sens universel. On peut le remplacer par la source, l'univers, l'amour. On peut dire ce qui nous parle le mieux, qui représente tout ce qui est, qui représente la totalité de l'existence dans laquelle nous sommes aussi inclus. Donc Dieu est tout ce qui est. Ça veut dire que Dieu ne peut jamais s'opposer à rien. Pourquoi ? Parce qu'il est tout et il s'opposerait donc à lui-même s'il s'opposait à quoi que ce soit. J'entends de la musique. Est-ce Dieu qui me parle ? Non. Pas tout de suite. Ça doit être à l'extérieur. Dans un extérieur supposé. Donc si Dieu est tout ce qui est et Dieu ne s'oppose à rien, manifestement Dieu accueille tout. C'est évident puisque ne pas s'opposer, c'est accueillir. Et accueillir, c'est aimer. Donc cette petite phrase « Dieu est » peut avoir des conséquences majeures quant à sa portée, quant à son enseignement, quand elle dit pour être... dans ce monde de réalité, dans le monde de la réalité, simplement j'accueille quoi que ce soit qui se passe. Et je dis bien j'accueille et pas je cautionne et pas je donne raison. J'accueille, ça veut dire cela est, cela s'est passé, cela se passe. Je ne lutte pas contre ce fait. Je l'accueille. Ça peut englober tous les aspects de la vie et toutes les parties en nous qui n'accueillent pas sont illusoires, sont en dehors de l'amour, en dehors de notre vraie nature. C'est ce que, dans ces enseignements, on appelle l'illusion. Alors, c'est quoi l'illusion ? L'illusion, c'est tout ce qui n'est pas réel, au sens d'un cours en miracle. Et tout ce qui est réel, c'est Dieu et c'est l'amour, qui sont aussi des synonymes, peuvent être employés l'un à la place de l'autre. Alors, pourquoi il y a une illusion et pourquoi il y a une réalité et pourquoi nous sentons souvent bien plus l'illusion que la réalité. Pourquoi nous ressentons ce monde comme étant réel et le monde réel décrit par un cours en miracle comme étant, lui, imperceptible ou illusoire. C'est un peu l'inversion de ce que nous disions. Parce que dans notre esprit, il y a une partie qui a voulu, à un moment donné, croire que et faire l'expérience que autre chose que la réalité puisse exister. Alors, comme nous sommes des êtres divins, hein, nous sommes inclus dans Dieu, nous avons toutes les propriétés d'amour, de tolérance, d'accueil de Dieu, parce que nous sommes également Dieu. Hein. Nous sommes une étincelle divine, comme un éclat du divin, comme un diamant avec plein de facettes, mais qui reflète toute la lumière divine, hein, la lumière de notre vraie nature. À un moment donné, les êtres divins que nous sommes se sont posé la question, que se passerait-il si nous n'étions pas divins ? Et une question qui est réellement absurde, puisqu'il n'y a que Dieu, hein, dans ce précepte-là, dans cette supposition de base, dans cette vérité, je peux dire, il n'y a pas autre chose que le monde divin. Il n'y a pas autre chose que la réalité. Seulement, nous avons un pouvoir divin et notre intention d'expérimenter autre chose que l'amour a été honorée. Mais comme nous ne pouvons pas la manifester dans la réalité, alors nous l'avons imaginée. C'est ce qui a donné naissance, selon un cours en miracle, et la non-dualité en général, à l'ego, hein, et à la partie que le cours appelle l'esprit faux. L'esprit faux, c'est la partie de nous qui croit que la séparation est possible et qui croit que autre chose que l'amour et autre chose que Dieu puisse exister. Donc, nous avons littéralement fabriqué dans notre esprit ce monde de dualité pour répondre à cette question. Que se passerait-il si autre chose que l'amour pouvait exister ? Et nous avons inventé toutes les polarités, amour et haine, beau et laid, jour et nuit, etc. Dans un monde de réalité où rien n'est changeant, et tout est félicité absolue, et tout est immuable d'une manière continue. Alors, c'est résumé aussi en trois petites phrases dans la préface d'un cours en miracle, trois petites phrases qui sont très porteuses, même si elles peuvent porter aussi un paradoxe entre elles. Et ces trois petites phrases de la préface sont « Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu ». C'est vraiment trois phrases très courtes. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Alors, ça mérite qu'on les approfondisse un tout petit peu. Ce qui est réel, c'est l'amour, hein, au sens de l'unité, au sens de ces enseignements non-duels. Ce qui est réel, c'est Dieu. Et Dieu et l'amour sont inchangeables, invulnérables, immuables, éternel. Hein. Je peux imaginer autre chose, mais je peux pas menacer l'amour. Hein. C'est bien différent. Et puis, rien d'irréel n'existe. C'est-à-dire que ce que j'imagine n'existe pas en vérité. Je l'imagine simplement. Je lui donne une réalité dans mon esprit. Mais ce n'est pas absolu. C'est relatif. Hein. C'est-à-dire que je peux inventer autant de réalités alternatives que je veux. Ça n'empêche pas que Dieu est tout ce qui est, ça n'empêche pas que l'amour est toute chose et accueille toute chose. Voilà, et donc la déduction simple aussi de rien de réel ne peut être menacé, c'est que tout ce qui un jour cessera d'être, mon corps, les objets matériels, la terre, le soleil, les galaxies, l'univers physique, tout cela n'est pas réel, parce que ce qui est réel ne peut pas être menacé, est immuable dans le temps. Et dans même l'absence de temps, bien sûr, puisque même le temps, un jour, cessera d'être. Voilà pour cette petite introduction. Il y a une autre partie d'un cours en miracle qui m'aide beaucoup, et je vais citer cinq phrases. Cinq phrases qui m'invitent à ne pas utiliser l'ego pour prendre la parole ou même pour présenter ce groupe et qui apparaissent au tout début de un cours en miracle à la page 30 et qui disent tout simplement ceci: je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà, dans ces phrases, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a une chose fondamentale, c'est la confiance. Dans la troisième phrase, je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire. Voilà, car je serai parfaitement guidé à le dire ou à ne pas le dire, à le faire ou à ne pas le faire. Et en vérité, c'est une manière que j'utilise pour rappeler le monde subtil à l'aide et pour que ce que je vais dire ou faire soit guidé par l'amour, soit guidé par l'esprit un, plutôt que par mon désir égotique, quel qu'il soit, d'être aimé, reconnu ou bien d'autres que nous connaissons tous. Voilà, et c'est une manière aussi d'appeler l'esprit juste, l'esprit pur, que le cours en miracle appelle le Saint-Esprit, avec un terme issu du christianisme qui est beaucoup plus universel qui n'est pas directement rattaché à cette religion, à part par le vocabulaire, disons. Donc cet esprit est là, et lorsque nous l'invoquons, comme je viens de le faire, nous appelons comme la partie de notre esprit qui est en connexion permanente avec la vérité, avec Dieu, avec le monde réel, à diriger. On peut aussi l'appeler l'intuition, on peut appeler nos guides, on peut appeler ça notre ange gardien. Peu importe, c'est la partie subtile qui est de nature à connaître les réponses à nos questions, quelle que soit la question, et connaître la réponse à nos problèmes également, quels que soient nos problèmes, mais avec simplement cette directive, je fais silence et j'écoute ce qui m'est proposé à dire, ce qui m'est proposé à faire. Et ça ne provient pas d'une impulsion cérébrale ou de quelque chose de réfléchi ou d'analysé. Voilà. Et lorsque je fais preuve de cette humilité-là, qui dit « je ne sais pas par avance ce qui va être dit, ce qui va être fait », j'ouvre la porte à des miracles qui sont petits ou grands dans ma perception, sachant que pour un courant miracle, il n'y a pas de degré de difficulté dans les miracles. Tous sont équivalents. Mais un miracle, c'est simplement un changement de perception. Tout d'un coup, j'ai été guidé à dire quelque chose qui résonne profondément en moi. Ou tout à coup, j'ai une impulsion intuitive qui me donne une réponse à quelque chose pour laquelle je m'interrogeais depuis très longtemps, sans réponse, en tournant en rond à l'intérieur. Et comment je le fais? Simplement en disant, occupe-toi de ça, esprit pur, mon esprit, occupe-toi de ça, toi qui n'es pas dans le temps, ni dans l'espace, et qui a accès à la vérité, tu as forcément accès à la réponse que j'attends. Parfois, ça se traduit dans nos vies par des flashs de vérité, par des révélations, ou des extases, ou des félicités, telles que j'ai pu en vivre également quand j'ai été initié au Tantra. Tout d'un coup, j'ai eu une révélation dans ma conscience qui m'a dit ces trois mots, tout est possible. Et j'étais dans un état indescriptible. Tout simplement parce que j'avais basculé dans la partie féminine de moi qui était jusqu'alors inconnue, mais j'avais basculé d'un coup. Il y a eu un déclic, je ne saurais pas expliquer réellement comment et pourquoi, mais le déclencheur c'était une femme m'a dit non, alors que je lui disais, est-ce que tu veux faire l'exercice avec moi ? Chose d'assez anodin, finalement. Mais comme à l'époque j'étais encore assez intériorisé, j'aurais dû, entre guillemets, en faire une catastrophe, et je ne l'ai pas fait. Je suis allé voir une autre femme qui, elle, m'a dit oui, et on a fait exercice ensemble. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé après coup que j'étais ailleurs que ce que je croyais. J'étais, d'une certaine manière, libre, affectivement, d'entendre le nom sans en faire un drame. Et cette réalisation m'a fait basculer d'un coup dans la partie féminine de moi. Enfin, c'est pas vraiment ça. C'est, j'ai compris que j'étais libre et finalement cette compréhension, je pourrais pas dire la chronologie parce que c'est très flou, j'arrive pas à retrouver exactement, mais cette compréhension là a déconditionné mon esprit. Cette compréhension-là a ouvert la partie féminine en moi, complètement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai commencé à apprécier la musique classique alors que je la détestais. Du jour au lendemain, je regardais les bâtiments dans Paris, je m'émerveillais alors que je n'avais pas du tout de goût pour l'architecture. Du jour au lendemain, je regardais les œuvres de peinture avec un autre œil. Du jour au lendemain, j'ai pu être beaucoup plus patient, beaucoup plus bienveillant. Bref, j'ai pu trouver le yin en moi, ou plutôt il a pu s'exprimer à travers moi, j'ai pu le recontacter. Et l'image que j'en ai, c'est j'ai toujours vécu dans une grande maison et une seule des chambres était fermée par un grand rideau et je n'y avais jamais mis les pieds. Et ce jour-là, j'ai ouvert le rideau et j'ai vu un palace avec des rubis, des diamants, avec des velours, avec de la beauté, de la grâce, et c'était mon féminin. Et ce féminin-là, j'ai mis vraiment le premier pas dedans ce jour-là. Et ça a vraiment changé ma vie. J'ai vécu 3 mois d'extase, de félicité, et je sentais réellement que tout est possible, vraiment au sens littéral. Je le sentais, hein, et moi qui étais très... j'avais beaucoup de mal à aborder les femmes parce que j'avais pas confiance en moi-même, et je savais pas du tout comment séduire les femmes. Et la question que j'avais en entrant dans ce stage, c'était comment séduire les femmes. Et lorsque je suis sorti de ce stage, ce qui est très étonnant, c'est que je n'avais pas de réponse à cette question, mais je n'avais plus la question. La question s'était effacée, en fait. Et en fait, il n'y avait pas besoin, hein, c'est à quoi je suis arrivé, il n'y avait pas besoin de séduire les femmes. Que je me permette simplement d'être moi-même, masculin et féminin, et dans cette complétude-là, les choses se font naturellement, et les choses n'ont pas besoin d'être attendues, mais elles se passent. Hein. Voilà, ma vie a été littéralement bousculée, chamboulée, dans le plus positif des aspects, hein, à la suite de cette révélation-là. J'ai goûté un bonheur de vivre qui est assez dense, assez Et c'était comme Obélix qui plonge dans la potion magique. Hein. C'est-à-dire que j'ai ressenti que ma mission, c'était d'enseigner le tantra, parce que j'ai eu un aperçu, à travers cette félicité, de qu'est-ce que c'est que réunir le masculin et le féminin, qui est la vocation première du tantra. Réunir, ça veut dire redevenir un, alors que nous avons séparé les pôles masculins et les pôles féminins avec bien d'autres pôles dans notre vie. Et quand je me sens à nouveau un, réuni, tout est possible. Hein, donc c'est très non-duel, hein, le tantra dans cet aspect-là. Le tantra, à l'origine, c'est un dieu Shiva et une déesse Shakti qui étaient un dans l'indifférencié. Pour s'amuser, ils se sont séparés en principe masculin Shiva, principe féminin Shakti. Shakti a entamé un dialogue de 112 questions avec Shiva, qui sont les 112 préceptes du tantra. Et Shiva a donné 112 réponses, qui à travers la respiration, les sens, le mental, tout ce qui compose notre réalité. Et à la fin de ces 112 questions, ils se réunirent à nouveau, rayonnants de béatitude, dans l'indifférencié. Et donc, il y a un semblant de séparation, et on retrouve l'unité. Voilà, c'est éminemment le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes dans la partie où les polarités se divisent, apparemment, pour nous donner l'expérience des contrastes, pour nous donner des perspectives sur l'amour. Qu'est-ce que c'est que voir l'amour devant soi plutôt qu'être immergé dedans, hein? C'est un peu notre expérience de dualité. Simon Leclerc disait « Prenez un poisson et demandez-lui ce que c'est que l'eau, il ne saura pas répondre parce qu'il est dedans et il s'en rend pas compte. Sortez le poisson de l'eau et répétez la question, et cette fois-ci, il saura très précisément vous dire que c'est vital, important, qu'il en a besoin pour vivre et qu'il n'a qu'une hâte, c'est d'y retourner. Et donc la perspective de l'eau pour le poisson a été primordiale. Et pour nous, l'eau, c'est l'amour. Hein. Nous sommes extraits de l'amour pour avoir la joie et la félicité d'y retourner, de nous y replonger, comme Shiva et Shakti qui se réunissent à nouveau. Voilà cette introduction suivie par un petit témoignage de ma vie. Donc je disais, j'ai reçu ce message, tu as goûté au tantra, ça t'a plu, bon maintenant tu sais de quoi tu parles quand tu vas l'enseigner. Hein. Donc si tu veux l'enseigner, tu as eu un petit échantillon maintenant. J'ai vraiment reçu ça comme un enseignement, et j'aurais jamais pu enseigner le tantra dans l'aspect très yang que je représentais, dans l'informatique, c'est binaire, c'est impossible d'enseigner le tantra en étant binaire, en étant dans cette division, en étant dans la rigueur masculine, ça aurait tenu un jour et demi, pas plus, hein. Voilà, et ça fait 13 ans que je baigne dedans, et je compte bien continuer aussi longtemps que ça sera possible pour moi, le plus longtemps possible. Voilà, donc bienvenue au témoignage. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté dans notre vie quotidienne, celle-ci peut être réabordée, rééclairée par la non-dualité. Pour l'examiner sous un autre angle, sous une autre perception, sous la perception de l'unité, hein, plutôt que celle de la séparation et de la division. Donc, bienvenue à tous les témoignages. J'ai parlé.
Le sujet d'aujourd'hui, tu nous as dit au début, c'est cultiver le bonheur d'être soi. Puis en t'écoutant, tu as parlé de l'illusion, de la réalité et de l'illusion. Donc cultiver le bonheur d'être soi, on peut dire, on est soi. Qu'est-ce que ça veut dire cultiver le bonheur d'être soi? Tout le monde dit, je suis là. Mais pourquoi est-ce que il y aurait quelque chose où ce ne serait pas le bonheur? Pourquoi est-ce qu'on cultive? Qu'est-ce qu'on cultive? Et là, ça nous amène à cette deuxième question, justement, de la réalité et de l'illusion. Cette question, réalité et illusion, elle agace très souvent. Et même dans tous les groupes spirituels, à droite et à gauche, partout, il y a en même temps un désir d'y voir plus clair, et puis finalement, souvent, un rejet farouche. Oh non, mais tout ça, c'est des bêtises. Et, gentil, on dit que c'est une illusion, vous allez voir. Je vous mets un coup de poing dans la figure, vous allez voir si c'est une illusion. Hein. Ici, c'est bien réel. Hein. Et on passe pas à travers les murs, on conduit sa voiture avec prudence, et quand il y a du verglas, on fait attention, sinon on dérape et on a un accident, etc. etc. Et puis, si vous ne faites pas attention, vous allez avoir votre compte bancaire qui va se tarir, votre conjoint... à partir, etc., vos enfants vont vous haïr, vous ne serez pas aimé, si vous n'avez pas votre boulot, ne faites pas attention, vous allez être viré, etc. Et ça continue comme ça indéfiniment. Alors c'est une illusion, ça, ou c'est pas une illusion? Voilà un agacement, et très souvent dans les groupes spirituels, on dit, oui, moi, c'est bien tout ça, la dualité, les groupes de partage, mais soyons concrets. Voilà. Alors donc, de quoi parlons-nous ici? Eh bien justement, le fait que c'est une illusion, ça commence à devenir fondamental. Et pourquoi c'est si difficile? Parce que si on dit, mais si c'est une illusion, on devrait le voir. C'est qu'on ne le voit pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? À cause de nous. À cause du jeu que nous avons choisi de jouer avec notre puissance divine. Tout à l'heure, Avi nous rappelait, Dieu est tout ce qui est. Dieu, on ne sait pas ce que c'est. On peut dire que Dieu, c'est pas un personnage. C'est esprit, c'est un esprit. Et la Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image, ce qui était tout à fait exact. Mais créer, ça veut dire s'étendre. Donc l'esprit s'étend en esprit. Et donc crée des esprits. Alors évidemment, on ne peut pas comprendre ça ici avec notre ego, puisqu'on est identifié à un corps. Et en fait, le fait qu'on soit esprit, quelque part, ça parle pratiquement à personne. On n'est pas esprit, on est un corps. Ici, moi, je suis un homme, je suis une femme, je suis ceci, cela, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants. Arrêtez vos bêtises. Hein? Donc, on est tout le temps confronté à ça, et on est confronté avec une réalité de matière qui paraît réelle, et puis des choses qui semblent théoriques. Alors, souvent, on dit, mais tout ça, c'est intellectuel. Eh oui, évidemment, on en parle, donc il faut bien les mots. Quand on en parle, mais souvent, le cœur dit, maintenant, on fait silence. Finalement, j'ai pas de réponse là pour cette difficulté, ce défi, ce challenge. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais aller faire une petite marche, ou je vais faire silence, ou je vais attendre. Donc, on s'aperçoit que on est confronté sans cesse à une apparence et en même temps une invitation à regarder un peu plus soigneusement, donc à faire silence. Ça peut être un silence avec des mots, ça peut être un silence avec une action, bien sûr. C'est une attitude, le silence. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une illusion? Effectivement, c'est une illusion. Cela dit, l'illusion, elle est remarquablement faite. Quand vous faites un rêve, quand nous faisons un rêve, bien, il y a des personnages, on va raconter le rêve, voilà, il y a eu ceci, cela, j'étais avec trois personnes, j'étais dans une voiture, etc. C'était mon rêve. Et puis une fois que le rêve est fini, on dit, où sont les personnages? Où est la voiture? C'était un rêve, ils sont pas là, ils n'ont pas existé. N'empêche que le rêve est structuré. On en parle. Et effectivement, l'univers qu'on voit, qui est une illusion, il est magnifiquement structuré, il est extraordinaire. C'est imaginé avec une puissance, mais hallucinante. rien que sur notre petite planète ici, quand on voit ce que c'est que la vie, quand on voit maintenant avec la science, avec nos instruments d'observation, avec toutes les vidéos qu'on voit, les films, les reportages, c'est l'infiniment grand, l'infiniment petit, on observe ça, c'est absolument hallucinant et magnifique. Magnifiquement imaginé, on va dire créé, et pour la plupart des gens, fabriqué. C'est ça la réalité. D'ailleurs, il n'y a qu'à aller voir le travail de l'érosion dans les couches géologiques. On peut dater très clairement de 200 millions, 300 millions, 1 milliard d'années et plus. Et donc, on fait des calculs très précis. Et donc, ça semble bien réel. Et alors maintenant, on vient dire c'est une illusion. Ça paraît absurde, ou ça peut paraître absurde. Effectivement, avec la croyance à la séparation, avec la croyance qu'on est vraiment le corps physique, que vraiment ce corps est qui nous sommes, et que le temps existe, et que donc, avec ça, si on part avec la croyance au temps et au corps, eh bien on ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que dans le courant miracle, c'est pas d'ailleurs dans le courant miracle, c'est dans d'autres écrits où Jésus nous dit, cette incarnation, elle est faite avec deux, disons, outils, magnifiquement organisés, conçus, pour donner l'illusion que la séparation s'est vraiment produite. Donc on est sorti de l'eau, comme je disais tout à l'heure, on est sorti de l'eau de l'amour, on est à l'extérieur. Ces deux instruments, c'est l'identification au corps physique et la croyance au temps. Tout à l'heure, Avi nous disait que le temps va disparaître. En fait, le temps n'a jamais existé. C'est notre croyance au temps qui disparaît. Bien sûr, c'est la croyance au temps. Et effectivement, quand les scientifiques, les physiciens quantiques actuellement, et tout le monde s'accorde pour admettre que c'est vrai, le temps n'existe pas. Mais bien sûr, c'est admis dans la science, mais c'est pas admis dans les consciences. C'est pas admis dans la vie pratique. Même un scientifique quantique, il attend son chèque à la fin du mois, il a ses angoisses, comme tout le monde, il a ses joies aussi, bien sûr, et il vit avec la croyance au temps. Et effectivement, on est 7 milliards ici à avoir choisi une expérience duelle, c'est-à-dire une expérience où tout est fait pour donner une réalité à la séparation. C'est simplement l'idée, on est tellement puissant que cette simple pensée, et si nous n'étions pas qui nous sommes, et si nous pouvions nous observer de l'extérieur, d'un certain extérieur, et voir quoi ? Voir l'absolu, mais c'est impossible puisqu'on ne peut pas sortir de l'absolu, donc il faut imaginer quelque chose de séparé, forcément, avec une perception, c'est-à-dire un percevant qui n'est pas le perçu. Je suis celui qui perçoit, mais je perçois quoi ? Quelque chose, forcément, qui n'est pas moi. Ce que je perçois, c'est à l'extérieur. C'est le principe de la perception. On est tellement habitué qu'on ne s'en rend pas compte. Ça paraît absolument la réalité, c'est fait exprès. Et on nous parle d'illusion, mais oui, mais ça commence à prendre un sens. Parce qu'après tout, ça fonctionne comment tout ça ? On parle de la planète, on parle de l'univers, c'est incroyable. On s'aperçoit que tout est soigneusement orchestré. Et que même si une planète arrive, on nous parle d'ailleurs d'une nouvelle planète qui va venir dans notre système solaire, c'est déjà prévu à l'échelle cosmique par les maîtres de l'univers, tout ça c'est des mots qu'on utilise pour parler de choses dont on ne peut pas parler, mais enfin ça ne fait rien, on emploie les mots qu'on peut. Donc amener une planète comme ça, une nouvelle planète, quand on voit que tout est en équilibre d'une manière extraordinaire, on s'aperçoit que si la température monte de 4 degrés ici, d'une manière générale sur la planète, on est tous morts, on ne peut plus, les corps ne peuvent plus fonctionner. Donc il y a un équilibre subtil incroyable, et que même si les humains, nous avons gaspillé beaucoup d'énergie, nous avons abîmé, entre guillemets, la Terre, la biosphère, l'équilibre reste quand même extraordinaire encore. Et ça va être d'ailleurs réparé. Et tout ça, c'est un rêve, c'est pareil. Alors on dit, mais c'est pas sérieux tout ça. Comment est-ce qu'on peut parler d'illusion dans cette expérience, là où nous sommes, ici sur cette planète et dans l'univers ? Et la réponse, elle est un peu comme ce que disait Avi tout à l'heure, en disant, quand la réponse vient, la question disparaît. C'est-à-dire que c'est le cœur qui va peu à peu ressentir. Mais comment, moi, je ne peux pas ressentir? Oui, avec l'expérience. Et on fait des expériences amoureuses, parce que maintenant, c'est l'heure d'en avoir beaucoup plus qu'avant. On fait des expériences d'amour, parce que c'est ça, puisqu'on est tous amour. Donc, effectivement, s'il y a un moyen de se connaître mieux, c'est évidemment par l'amour, c'est parce qu'on est. Par ce qu'on est. Hier soir, avec quelques amis, nous sommes allés au centre de Rose-Croix, ici à Paris, rue Saint-Martin, et il y avait la devise de Socrate, au troisième étage, sur le mur, « Connais-toi toi-même, gnotiseoton, connais-toi toi-même. » Bon, effectivement, mais ça veut dire quoi, « connais-toi toi-même » Ben, on se connaît, moi je suis un homme, une femme, tout à l'heure Avi disait cultiver le bonheur d'être soi. Mais c'est quoi ce soi? Et justement, on s'aperçoit qu'on ne le connaît pas. Qu'on s'imagine être le corps, qui d'ailleurs va mourir, donc on est tout le temps face à notre mort. On ne veut pas le voir parce que c'est trop terrifiant, donc on fait semblant. Et on s'en va, on s'évade. On va chercher des faux fuyants, on va chercher des attentes. D'attente d'argent, de relations, de tout ce qu'on veut, de reconnaissance. Il faut aller faire les soldes, il faut aller faire des choses, il faut attendre les vacances. Et puis le lundi, on dit, oh là là, ça va mal comme un lundi, ou, bon, etc. Et quand on quitte quelqu'un quelque part, on dit, allez, au revoir, bon courage. Hein. Voilà, mais c'est affolant. Voilà notre monde. Donc on s'aperçoit qu'il y a effectivement une souffrance formidable. La fête du travail... Bien, on ne travaille pas, hein, au lieu de on fait rien, et justement, parce que pourquoi? Parce que le travail est un mal. Pour ce monde de folie, le travail est une absurdité. Donc on travaille parce qu'il faut bien gagner sa vie, etc. On est dans un monde de fous. Et c'est un monde illusoire. Mais alors, ah bon, mais alors comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en attendant, on est dedans. Eh bien, justement, le cours en miracle nous dit bien de l'intérieur de ça, parce que c'est comme si on s'est piégé. Avec un art incroyable, avec une propension à créer incroyable, on s'est piégé dans un jeu où on semble être piégé à jamais. Parce que nous avons utilisé notre puissance divine pour imaginer la séparation. Le grand éclat de rire, c'est que ce n'était pas possible depuis le départ. Et depuis le départ, on le savait. C'est pour ça que ce n'est qu'un jeu, comme des enfants à l'école qui jouent. Qui tiens, on va jouer au gendarme et au voleur. Alors toi, tu es le gendarme, moi je suis le voleur, et puis on se court après, et puis tu vas me tuer, et puis etc., on s'amuse. Effectivement, au début, c'était drôle. Quelle blague incroyable d'imaginer ne pas être cette plénitude incroyable, cette magnificence que nous sommes. C'est incroyable. Seulement, et là, on nous dit, même les maîtres de l'univers n'avaient pas prévu à quel point l'oubli serait de la partie. Qu'on aurait oublié à ce point. Et on nous dit même qu'il a été question d'arrêter le jeu un peu plus tôt, mais qu'on s'est aperçu que le jeu est joué avec une... qu'on est en train de faire une démonstration de la puissance de l'amour qui se réveille au milieu de cette noirceur, qui se réveille au milieu de ce manque d'amour apparent, et que du coup ça passionne l'univers entier. Et encore une fois, c'est pour ça, parce qu'au début on ne comprend pas très bien, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'êtres d'autres univers, d'autres galaxies, d'autres systèmes solaires et autres, qui sont passionnés par notre aventure terrestre, et qui nous observent et qui nous aident avec une joie, un amour incroyable, et un émerveillement incroyable. Et qui nous disent, mais bravo, sur la Terre, vous êtes extraordinaire. Alors bien sûr, ce n'est pas personnel. C'est parce que c'est le jeu lui-même qui est extraordinaire. Nous sommes en train de faire une démonstration de réveil dans l'amour, dans une noirceur incroyable, dans une dualité très forte. Magnifique. Alors, on commence à comprendre ça. Et alors, le fait que, pour la plupart d'entre nous, encore, dire que c'est une illusion, ça paraît absurde. Oui, on comprend très bien. Encore une fois, parce que c'est très très bien fait. Et donc, ce monde illusoire paraît vraiment réel. C'est pas nié, il faut surtout pas le nier. Quand je dis « il faut pas », ça veut dire, si on veut voir plus clair, nous sommes invités à ne pas le nier. Voilà ce que ça veut dire. Mais il n'y a aucune obligation, puisqu'on ne peut pas obliger qui que ce soit, puisqu'il n'y a que Dieu. Dieu ne s'oblige pas lui-même, il s'amuse. C'est la conscience qui s'amuse à se réveiller, à se sembler se perdre dans un labyrinthe et puis avoir la joie de se retrouver en disant « mais j'ai toujours été là, mais c'est extraordinaire. » Alors on dit « mais pourquoi ça ? À quoi ça sert tout ça ?» Ça sert à étendre l'amour. Ça sert à créer, c'est-à-dire à s'étendre soi-même en tant qu'être divin, être de lumière, dans des relations amoureuses. Parce que nous parlons de dualité. Ça suppose deux. Tout à l'heure, Avi nous a parlé de son expérience avec le tantra et de ce qu'il enseigne. Et effectivement, nous apercevons que cette notion tantrique devient fondamentale dans l'expérience humaine. Bien sûr, ça va au-delà d'un enseignement de tantra particulier. Pendant moi, je ne fais jamais de tantra en tant que tel. Pourtant, je suis tantrique tout le temps. Bon, ce n'est pas une question d'aller faire du tantra ou pas. Certains oui, certains non. Mais l'esprit tantrique, oui, l'esprit de réunification dans une dualité sexuée avec le masculin et le féminin devient fondamental dans le réveil planétaire que nous sommes en train de vivre ensemble. Ça devient extraordinaire et ça devient une occasion de relation amoureuse au-delà du sexuel et avec le sexuel. C'est-à-dire le sexuel, ce n'est pas nécessaire, mais ça fait partie de l'expérience humaine, puisqu'après tout, les 7 milliards que nous sommes, eh bien, chacun a bien un corps particulier avec un sexe particulier. Même si on est homosexuel, si on cherche même être transsexuel, c'est des expériences. Mais il y a bien une individualité particulière dans cette expérience qui a été choisie justement pour s'identifier à un corps particulier. C'est fondamental. Donc il s'agit. Nous sommes invités à ne surtout pas nier cette expérience terrestre, ne pas nier cette expérience humaine, et au contraire à la prendre amoureusement, l'embrasser plus que jamais. Comment ? Par l'amour, dans l'amour, pour l'amour. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui a un sens. Et à ce moment-là, le processus devient plus clair et il y a réveil. Le réveil n'est jamais terminé parce que, quelque part, on est toujours en apprentissage. Même quand on quitte le corps, même quand on part dans d'autres mondes, il y a toujours un émerveillement de plus en plus grand. Toujours des surprises, des découvertes. Car qui nous sommes, c'est infini. Qui Dieu est, infini. L'esprit est infini, donc tout est possible et ça n'a aucune limite. Donc, évidemment, je suis en train de toucher là à quelque chose qui nous est inaccessible. Là, dans notre expérience terrestre, inaccessible au sens de compréhension. Mais on est invité toujours à atteindre la paix au-delà de, qui est au-delà de la compréhension, comme c'est dit dans la Bible. Alors il y a un paradoxe avec cette notion de compréhension. Et parce que le cours en miracle nous dit, par exemple, la joie et la paix vont de pair. La joie et la paix. La joie et la compréhension vont de pair. Peace and understanding go hand in hand. La paix et la compréhension marchent la main dans la main. Alors, on dit qu'il n'y a rien à comprendre et en même temps on parle de compréhension. En fait, c'est une compréhension par le cœur. C'est tout, c'est une révélation, c'est quelque chose qu'on ressent. Comme Avi qui nous partageait tout à l'heure son expérience, tout d'un coup il a pris conscience de quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'il a lu, ça aurait pu être à propos de lire quelque chose ou de. Ça a été tout d'un coup une révélation. Mais d'où vient cette révélation ? De nous-mêmes. Et c'est ça le grand truc. C'est pour ça que l'éveil, c'est une bonne blague, parce que l'éveil est en nous. Puisqu'on n'a jamais dormi, mais on s'imagine. Donc la clé, elle est en nous. C'est pour ça que Jésus disait, le royaume est en vous, n'allez pas chercher ailleurs. Ça a très peu été compris. On a fait de Jésus un sauveur, il n'y a pas de sauveur, puisque le royaume est en nous. Et même lui-même disait à l'époque, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne peut pas venir. Vous êtes focalisé sur ma personne, vous pensez que je vais vous sauver, mais c'est vous qui vous... Vous êtes déjà votre propre sauveur, puisque vous êtes sauvé. C'est ça le message. C'est pour ça que tout enseignement, eh bien, c'est simplement un témoignage de ce qu'on est. C'est le témoignage de qui nous sommes. Et comment se fait ce témoignage ? Par l'amour, en étant de plus en plus amoureux de tout et de tous. C'est très simple, c'est hyper simple. Alors, cette illusion, et se connais-toi toi-même. Cultiver le bonheur d'être soi, dans un monde que nous avons choisi qui est illusoire. La chose, c'est effectivement c'est pas intéressant de discuter, savoir si le monde est illusoire ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est l'expérience amoureuse. C'est la seule expérience qui ait un sens, qui soit nourrissante. Alors on va dire, oui, mais comment faire Ah, comment faire? Et c'est là que revient tout le temps cette question. Et c'est jamais dans un faire. C'est comment être. Ah, mais comment être? Oui, mais bon, depuis tant de temps. Oui, depuis tant de temps, et puis encore dans 10 ans, dans 20 ans. Mais attention, on ne vit que l'instant présent. Donc la question revient toujours, comment être dans l'instant présent? C'est d'une simplicité incroyable. La vraie question, comment être maintenant, puisqu'il n'y a que maintenant. La seule réalité, le seul aspect du temps qui soit éternel, c'est le maintenant, comme dit le courant miracle. Le seul aspect du temps qui soit éternel, c'est le maintenant. Et on vit toujours maintenant. Alors on parle d'aller voyager dans le passé ou dans le futur, mais on le fait quand? Maintenant. Même si j'invente des machines changer d'espace-temps, je suis toujours maintenant. Parce que j'ai toujours une expérience. Et je suis toujours dans l'éternel maintenant. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est imaginé. Y compris les mondes avec d'autres dimensions, c'est tout imaginé. Y compris le monde multidimensionnel et les autres espaces-temps, c'est tout imaginé. C'est incroyable. C'est magnifique. Vous comprenez bien? Et à ce moment-là, vous vous retrouvez, vous, dans votre cuisine, à éplucher vos pommes de terre, et puis vous sortez dans la rue, là, il pleut pas, c'est décembre, il fait froid, ou au contraire, c'est l'été, vous êtes là dans votre monde, parce qu'on est là vraiment, c'est là que ça se passe. C'est toujours dans son quotidien, avec un corps, masculin ou féminin, avec des émotions, des tendances, des envies, des peurs, des culpabilités, des joies, des doutes. Ok, on est tous à la même enseigne ici. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On commence à s'ouvrir à l'amour. Eh oui. Parce que nous sommes amour. Alors ça commence à prendre un sens, cette histoire de non-dualité amoureuse. Et cette réunion du masculin et du féminin. Ça commence à prendre un sens et c'est très simple. C'est vraiment là où je suis que ça se passe. Et même si je sors dans la rue, je vais faire des courses par exemple, je peux le faire en relation amoureuse. Même sans dire un mot à personne. Quand je conduis ma voiture, c'est pareil. Et si je suis arrêté parce que j'ai commis une infraction, ça va être pareil, etc. Partout, je peux être toujours en amour parce que je suis toujours dans l'instant présent. Et donc, dans l'instant présent, je peux choisir. Mais je choisis en esprit. Et tout à l'heure, dans les questions que Avi proposait pour le groupe, il nous parlait de... j'ai perdu mon fil... C'est très bien. Non, c'est pas ça. Ça fait rien. C'est très bien. Il n'y a pas d'erreur, justement. Et j'ai remarqué que quand il y a un arrêt comme ça, c'est parce que ça doit être comme ça. On ne sait jamais pourquoi sont les choses. Vous voyez, il y a beaucoup de mots qui sont dits. Et puis finalement, chacun les perçoit à sa façon. Et il y a un travail qui se fait. Donc il y a un paradoxe, il y a des outils qui nous sont donnés, des mots, des livres, des vidéos, des expériences. Mais c'est l'esprit qui fait ça. Et une fois de plus, Avi avait commencé son groupe en disant « je vais laisser l'esprit guider le groupe ». C'est exactement ça. Et quand il y a apparemment, disons un manque, par exemple, tout d'un coup on perd son fil quand on parle, c'est fait exprès. Il n'y a aucune erreur. Le hasard ne joue aucun rôle dans le plan divin. Il n'y a pas de hasard. Donc tout ce qui semble être, disons, un manque, une erreur, est à sa place. Tout est à sa place. À sa place pourquoi? Pour notre réveil à l'amour. Ça sert à quoi de se réveiller à l'amour? Ça sert à goûter la joie de se retrouver ensemble, dans des relations amoureuses, des relations d'amour, des relations de frères et sœurs. C'est ce que nous sommes en train de retrouver. Et encore une fois, à la question, mais comment y arriver? Eh bien, la non-dualité aide beaucoup parce qu'on va tout de suite au début et à la fin, c'est-à-dire c'est qui nous sommes. Tout le monde est amour et rien d'autre. Et donc je vais faire confiance à cet amour partout. Évidemment, ça suppose de la confiance, bien sûr. Et ça, c'est la grande, c'est la première des caractéristiques des enseignants de Dieu, comme dit le cours en miracle. C'est inévitable ici, dans cette incarnation, la confiance est fondamentale. Pour le monde de l'ego, la confiance n'a aucun sens. C'est absurde, c'est dangereux. Il faut pas aller trop loin, il ne faut quand même pas exagérer, etc. Alors qu'en fait, puisqu'il n'y a que Dieu, il n'y a que l'amour, la confiance n'a aucune limite. Aucune. Il n'y a aucun risque à aimer. Il semble y avoir des risques et on en a peur, donc on fait attention. On a peur de Dieu, on a peur des autres, on a peur de tout ça. Parce qu'on s'imagine être le corps physique. Alors on va dire, oui, mais on s'imagine le corps physique en attendant. Puisque j'ai choisi une expérience dans un corps physique, il faut bien que je m'en occupe. Je me suis mis sous des lois physiques, donc il faut bien que je m'en occupe. Et c'est là l'erreur. Oui, je laisse l'esprit me guider pour savoir ce que je vais manger, pour savoir à qui je vais téléphoner, pour savoir quelle attitude je vais avoir, qu'est-ce que je vais faire dans telle ou telle circonstance. Mais je ne sais pas, je laisse l'esprit. Et donc j'arrête de répondre à des questions. C'est qu'est-ce que vous feriez dans telle circonstance ou... Je n'ai pas de réponse, bien sûr. Puisqu'à chaque fois, je suis comme un enfant qui ne sait rien dans une situation précise et qui écoute sa guidance, qui écoute son intuition, qui écoute le féminin en lui. Cet amour qui lui dit, tiens, je fais ça. Voilà. Je vais à droite, je vais à gauche. Là, je fais silence. Au contraire, je parle. C'est une question d'attitude dans l'instant. Et quand il y a des questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, c'est toujours hors sujet. C'est comment voir. Comme dit le cours en miracle, dans chaque situation, on peut toujours dire, je pourrais voir la paix au lieu de cela, quand je suis perturbé par exemple. Je pourrais voir la paix au lieu de cela, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la paix. Parce que tout le monde est la paix. Ah oui, mais je la vois pas, alors bon. Oui, oui, ok, je la vois pas, je sais. Ben oui, on est au travail ici. L'illusion est très forte. Donc le fait d'avoir des angoisses, de ne pas sentir en paix, c'est tout à fait, entre guillemets, normal. Ça fait partie du processus de l'incarnation. En fait, c'est pas normal du tout, en réalité. Puisque la peur, l'angoisse n'a aucun sens, aucune réalité. Mais la souffrance n'a aucune réalité, c'est pas divin, c'est imaginé. Mais ça nous semble réel, alors on s'en occupe. Parce que ça ne nous plaît pas. Et donc, on en a assez. Et quelque part, on est en train de se réveiller parce qu'on en a, on a assez joué avec ce jeu de la dualité. On en a fait le tour. Ça ne nous plaît pas. Et on veut autre chose. C'est pour ça que les nouveaux enfants, actuellement, ils cassent tout. Ils veulent autre chose. Mais les nouveaux enfants, c'est nous aussi. C'est ensemble qu'on fait ça. C'est ensemble qu'on se réveille. Comment? Par l'amour. Mais quand? Mais maintenant? Pas demain, pas hier. Et c'est une question individuelle. On parle de l'inconscient collectif, on parle de, okay, de l'état de conscience sur la planète, très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cet état de conscience? C'est un état de conscience auquel je participe. Et donc, le seul domaine où je peux avoir une action, c'est en moi. Ce n'est pas chez les autres. C'est en moi. C'est comment qu'est-ce que je choisis? Donc tout le travail non-duel que nous faisons, tout ça, c'est un travail sur soi. Ça n'empêche pas de se retrouver en groupe, ça n'empêche pas de faire des choses, de faire... Bien sûr, au contraire d'ailleurs, puisque ça crée des relations. Mais dans tous les groupes spirituels, partout, dans tout ce qui se passe, c'est des relations entre les uns et les autres qui ont un sens. Même quand on va voir quelqu'un de connu, un écrivain connu, ou quelqu'un qui rassemble beaucoup de monde, très bien, mais de plus en plus, on sent bien que c'est le rassemblement du groupe qui a un sens. Par exemple, Amma, qui embrasse des gens, qui a des milliers de gens, finalement, qu'est-ce qui se passe quand elle va quelque part? Il y a une énorme foule qui vient, il y a des relations entre les gens qui sont là. En février 2011, j'étais à San Francisco pour une conférence internationale sur le cours en miracle. Il y avait 500 personnes dans le Holiday Inn. Celui qui organisait la conférence disait... La vraie conférence se passe dans la salle à manger. là où on dînait, on mangeait tous ensemble, on était 500. Et c'est là que ça se passe, c'est dans les relations entre les gens. Effectivement, j'ai eu beaucoup de relations très fortes, beaucoup de contacts, de plaisants, amoureux vraiment, avec beaucoup de gens. C'est par nos relations, maintenant, que nos relations amoureuses, que vraiment nous nous réveillons. Parce que ces relations amoureuses, elles sont créatrices, elles étendent l'amour. Elles nous permettent un donner-recevoir amoureux. Ou justement le féminin et le masculin qui sont en même temps en nous et qui aussi font partie du corps physique apparent, du véhicule que nous avons choisi, eh bien, où tout ça commence à être profondément accueilli. Et quand on va dire, quand on dit accueilli, ça veut dire être aimé. Parce que aimer et accueillir, c'est la même chose.
Donc je succède à Sylvain, c'est pas chose facile. Sylvain, tu viens de parler un peu comme un livre pour moi, avec beaucoup d'aisance. J'ai entendu beaucoup de concepts, notamment il suffit d'aimer. Il suffit d'aimer, c'est simple, c'est facile. Eh bien non, c'est pas si facile que ça pour moi. Moi, je m'appelle Claire. Parfois, c'est pas si facile que ça parce que j'ai beaucoup d'attentes encore, beaucoup d'impatience. Je suis confrontée à beaucoup de choses à l'intérieur de moi, à ce moment. Beaucoup de révolte, d'angoisse. Je me sens pas. Moi, je vais pas faire de discours conceptuel. J'en suis parfaitement incapable et puis ça m'intéresse pas tellement. Je suis beaucoup plus touchée quand vous parlez de vous-même par rapport à ces concepts. J'ai été touchée par ce que tu as dit à San Francisco, ce qu'Avi a dit quand il a eu cette révélation intérieure de l'aspect féminin de lui-même qu'il n'avait encore jamais perçu. Moi, je sais pas si j'ai vraiment eu des révélations dans ma vie. En tout cas, là, je suis confrontée avec le vieillissement de ma maman à la nécessité de lui pardonner, parce que j'ai beaucoup de colère contre elle, une énorme colère. Elle m'a beaucoup agressée, beaucoup, beaucoup blessée, et enfin, en tout cas, j'ai perçu que, j'ai senti ça comme ça. Et j'avais lu le texte là de Qu'est-ce que le pardon? Et quand, celui qui a dit le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit, moi je comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. J'entends les mots, je comprends les mots, mais je ne comprends pas comment c'est possible. Pour ça, ça veut dire que si je reconnais que ce que m'a fait ma mère ne s'est pas produit, ça veut dire qu'en gros j'ai eu une vue de l'esprit, une mauvaise perception. Or j'ai bien en tant qu'enfant et adolescente et adulte ressenti les blessures, l'agressivité de cette personne qui est ma mère, pour des tas de raisons qu'elle-même, elle a bien sûr été blessée, agressée, bien sûr. Toutes ces choses qui se transmettent depuis des générations de manque d'amour. Hein. Donc quand tu dis, Sylvain, eh bien il suffit d'aimer, quelque chose de cet ordre-là, l'amour, être amoureux, l'état amoureux que j'ai connu dans ma vie, eh bien moi, c'est pas... Les scénarios que j'ai vécu n'étaient pas si faciles que ça. Alors, j'appelle de tous mes voeux à connaître une nouvelle histoire d'amour qui soit une belle histoire d'amour et une véritable histoire d'amour, avec sexe si possible, puisque tu parlais que l'amour c'est pas forcément avec le sexe, bien sûr, évidemment. Mais je suis quand même... le résultat de beaucoup de mémoires, et je m'attelle à travailler sur ces mémoires, mais pour moi, tout ce que tu as dit, ça reste très conceptuel. Et je voudrais bien voir comment toi tu vis ta vie, parce que pour moi, c'est pas si simple que ça. Voilà.
Oui, je te remercie, Claire. Je me suis mal exprimé, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, le cours dit « Ce cours est simple, mais il est difficile. » Et donc, quand je dis que c'est facile, c'est une façon de parler, mais effectivement, c'est très difficile. Disons pas, on va dire que ça paraît très difficile, à moi aussi. Et donc, je voudrais aussi, donc je me suis mal exprimé, ça semble très difficile, c'est pour ça que, d'ailleurs, le cours a 1300 pages et qu'on est tous au travail, on est tous au boulot ici, moi y compris, et donc c'est pas facile. Donc, je me suis mal exprimé quand j'ai dit c'est facile. À des moments, on voit que c'est facile, mais c'est à certains moments, c'est tout. Mais la plupart du temps, ça paraît difficile.
J'ai pu pardonner à mon père qui... J'ai une émotion qui n'a pas vraiment su m'aimer avant de sa mort l'année dernière, en février. J'ai pu lui pardonner, je l'ai accompagné comme j'ai pu pendant un mois et demi, à peu près le temps qu'il m'a laissé, puisque il ne nous a pas dit à ma sœur et à moi qu'il était il était très gravement malade, et comme il habite à 800 km, il habitait, nous ne le savions pas. C'était une grande expérience. J'ai pu reconnaître, je reconnais surtout depuis qu'il est mort, même avant un peu bien sûr, tout ce qu'il m'a donné, puisque j'ai pu lui dire par lettre avant plusieurs, 2 ans peut-être avant sa mort ou 1 an, que je le remerciais pour tout ce qu'il m'avait apporté, la culture, l'ouverture aux arts, l'éducation à la santé, beaucoup de choses. Je pense que si je fais ce que je fais actuellement dans ma vie, ce chemin de conscience, c'est comme ça que je le vois, c'est aussi grâce à mes 2 parents, malgré toute la souffrance vécue depuis que je suis née. J'ai pu donc pardonner à mon papa, et j'en suis infiniment contente d'avoir pu faire ça, malgré toute cette terrible souffrance que j'ai pu vivre. Et maintenant, il va falloir que je fasse la même chose avec ma mère. Voilà. Je ne peux pas m'étaler davantage. Je sens que ça suffit de remuer les vieilles mémoires et de lui ramener à la figure tous les griefs et toutes ses méchancetés, son agressivité, que ça ne sert à rien, que ça ne fait que amplifier des mémoires lourdes, et que j'ai envie que quelque chose change. J'ai envie de changer ma perception de cette vieille femme de 79 ans qui est très malade et très souffrante dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur. J'ai envie de ça, là. Je sais pas comment je vais faire, parce que je sais pas trop le faire. Mon père, c'était un peu plus facile, peut-être, parce qu'il était sur son lit d'agonie. Les dernières semaines de sa vie. Mais là, elle, je sais pas, c'est un grand point d'interrogation. Je crois que je vais devoir ne rien faire et ouvrir mon cœur. Merci.
Merci Claire, ce partage nous touche tous, parce que quelque part nous le comprenons, nous le vivons aussi. Et d'ailleurs, le cours, mais il n'y a pas que le cours, nous dit effectivement vous ne pouvez pas. Et tu as dit, je vais faire ce que je peux, mais je ne sais pas le faire. Effectivement, on ne sait pas le faire. Et c'est pour ça que c'est laisser en soi l'esprit, ce que le cours appelle le Saint-Esprit. Mais ça suppose une vigilance. Ça suppose un travail quotidien, un lâcher-prise autant qu'on peut. Souvent, ça prend beaucoup de temps. Ça peut aussi prendre très peu de temps, ça dépend. Et là, c'est le mystère du chemin de chacun. Je n'ai pas envie de mettre des mots là-dessus. Il n'y a pas de mots à mettre. Tu vois, Claire, quand c'est l'heure, on emploie des mots, c'est vrai. Mais souvent, on me demande, qu'est-ce que tu fais, Sylvain, dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours envie de dire, moi, c'est pas les mots que je dis, c'est pas si j'écris un livre, si je fais une conférence, si je sais pas, si j'ai une interaction avec quelqu'un. C'est pas ce que je fais. C'est comment je le fais. C'est ça mon travail. Et ça, c'est quelque chose qui recommence tous les jours. Souvent, je dis, je recommence à la leçon numéro 1 tous les matins. Je ne sais pas, on ne sait pas. On laisse faire l'esprit, on fait ce qu'on peut. Et dans ce « on fait ce qu'on peut », on le fait pour soi-même et pour les autres. Donc, c'est aimer soi-même ou aimer les autres, c'est pareil. C'est dire, ben, j'accueille ce ras-le-bol par moment, cette impression d'en avoir assez, de vouloir d'autres relations, de vouloir voir différemment, comme tu viens de dire, avoir une autre perception de ma mère. Et ben oui, on est tous là-dessus, profondément, complètement. Tu vois, j'ai qu'une envie, c'est de t'embrasser, c'est tout, et de me taire. Voilà.
Et nous avons un hug en direct pour les auditeurs. Merci. Tout à l'heure, je disais, c'est pas le nombre de personnes qui est un gage de qualité, mais plutôt la profondeur de l'intimité que nous autorisons. Et l'intimité, c'est juste la vérité d'être soi, hein, comme cultiver le bonheur d'être soi, c'est pouvoir parler avec sa vérité. Sa vérité toute relative, hein, puisque nous sommes dans un monde de relatif. Tout est relatif à autre chose. Et en même temps, le relatif est un chemin d'accès vers l'absolu pour nous humains. C'est à travers les expériences de nos pères et mères que nous héritons d'une part de souffrance, comme tu viens de le dire, Claire, d'une part d'héritage souffrant, et d'une part d'amour, hein, quand ton père te transmet son amour pour les arts et pour toutes ces choses qui rehaussent sa vision et te le transmet, il te transmet l'amour, son amour aussi, à travers ça. Et qu'est-ce que c'est que l'élévation de conscience de l'humanité? C'est que au fur et à mesure des générations, nous transmettons de plus en plus d'amour, d'amour pur. Je t'aime tel que tu es, et de moins en moins de souffrance, sous la forme de peur, hein, sous la forme de tension. Alors, en effet, aimer est simple, mais ça peut être difficile. Hein. Aimer est simple parce que aimer, ça signifie relâcher toutes les barrières et toutes les tensions qui implique beaucoup d'énergie à être maintenue en place. Donc un relâchement demande beaucoup moins d'efforts qu'une contraction. La peur est contraction et l'amour est relâchement. Dans l'accueil, je ne m'oppose à rien. Et s'opposer, c'est mobiliser beaucoup d'énergie pour défendre ou attaquer. Donc, récemment, j'avais organisé... Jeudi dernier, là, la pleine lune du Vésac, la pleine lune du Taureau, une pleine lune qui est seulement une fois par an et qui représente la réunion des énergies bouddhiques de compassion et des énergies christiques d'amour universel en un même moment, hein, sur la terre, la pleine lune du taureau. Alors pourquoi je dis ça? Parce que nous étions peu nombreux, mais c'était une soirée absolument exceptionnelle. Alors, de mon expérience, mettez cette personne ensemble dans une pièce, laissez-les danser, et constatez dans cette danse et dans cette confiance et dans ces liens qui se tissent que les tensions se relâchent. Et comme nous n'avons en tout et pour tout que deux façons d'appréhender notre réalité, c'est soit par des sentiments d'amour, soit par un état d'amour, ou soit par des sentiments de peur, de contraction, d'angoisse, etc. Pour aimer, ce qu'il y a de simple à faire, c'est relâcher les tensions. Alors, ça peut être simple et difficile, parce que relâcher, c'est simple. Mais abandonner les tensions, ça peut être difficile. Hein. Relâcher, c'est arrêter les efforts. Arrêter de faire des efforts pour s'opposer. Donc, mettez cette personne et laissez-les danser librement. Au bout d'une heure, l'amour revient au galop. Pourquoi ? Parce que les brumes de tension, les brumes de croyance, les brumes de « je me méfie de toi », les brumes, c'est des brumes, elles se dissipent, parce que l'amour est comme un soleil qui dissipe les brumes. Donc pourquoi en vacances, dans les mois d'été, il y a plein de relations amoureuses ? Parce qu'on n'est plus détendu, parce qu'il y a moins des obligations qui nous disent « fais ci, fais ça ». Non, on vit à notre rythme. Et tout d'un coup, aimer, ça devient simple, et puis un parfait inconnu, en 3 heures, ça devient une personne très proche et très intime, ça peut devenir. Donc, il y a l'amour et il y a la peur. Hein. Tout ce que nous vivons comme émotion peut se rattacher soit à la peur, soit à l'amour. Et c'est important de faire la différence entre les deux. Souvent, c'est évident, hein. Et parfois, ça l'est moins. Mais ce qui est important, et pour moi avant tout, c'est d'observer les effets de la peur sur mon être, et d'observer les effets de la détente et de l'amour sur mon être. Je peux pas donner de l'amour si je suis dans la tension. Je peux pas donner de l'amour si je me protège. Alors bien sûr, la détente, la confiance, qui est un même mot pour la détente, pour se détendre, faire confiance, c'est détendre, mais détendre quoi ? Détendre les jugements. S'il y a bien une chose qui est fondamentale dont je peux témoigner dans ma vie, c'est pour aimer davantage, je renonce consciemment à mes jugements. Et en premier à mes jugements sur moi-même. Parce que comment je peux apporter la paix autour de moi si je suis en guerre avec moi-même? Je ne peux rayonner que ce que je suis. Je suis ce soleil qui va faire rayonner le changement dans le monde d'après le changement que j'ai à l'intérieur. Donc, renoncer à ces auto-jugements, à ces auto-sabotages, c'est de la plus haute importance. Et dans ma vie, il y a le jour d'avant, ce jour-là, et il y a le jour d'après, ce jour-là. Oui, on peut faire 2 photos, avant-après. C'était en thérapie, hein, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça a été certainement progressif. Mais il y a eu un jour où ça a basculé. Comme dans mon stage de tantra, j'ai basculé de l'autre côté de la rive, dans le féminin, j'ai plongé à corps perdu dans le féminin, ou à corps retrouvé, à corps perdu dans le sens m'abandonne, eh bien, il y a un moment dans ma vie où je dis, ça suffit, et ça suffit, assez. assez de jugement. Parce que ça m'épuise. La guerre intérieure m'épuise. J'y passe toutes mes ressources. J'y passe toutes mes forces. Je suis sans arrêt en train de mobiliser beaucoup d'énergie à me contracter, à me protéger. Alors que quand je me détends, je relâche toute cette énergie, je récupère toute cette énergie pour être heureux, pour cultiver mon bonheur. Et en plus, je donne une image de moi-même qui est beaucoup plus attirante, parce que tout le monde veut ça, en vérité. Tout le monde veut être détendu, tout le monde veut être heureux, tout le monde veut le bonheur. C'est pas pour rien que le tantra se résumait à une seule phrase il y a 1000 ans. Soyez détendu et naturel. Ça a l'air de rien, mais c'est une phrase incroyable, de profondeur. Et elle est simple, cette phrase. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est réellement simple. Et ce maître-là, qui s'appelait Tilopa, répétait tout le temps cette phrase. Chaque fois qu'on lui demandait d'enseigner le tantra, il ne disait rien d'autre. Soyez détendu et naturel. Aujourd'hui, je le répète aussi, hein, souvent, dans mes groupes. Si je suis, je peux pas juger et être détendu. Donc ça a beaucoup d'effets secondaires d'être détendu. Le jugement est tension. Le jugement est guerre. Et comment puis-je être en paix si je juge? C'est impossible. Mais j'ai cette capacité de renoncer au jugement. Mais renoncer, c'est un mot où la conscience est là. Et lorsque j'ai renoncé au jugement, à mes auto-jugements, et lorsque je vais éduquer mes enfants, je vais les éduquer avec une beaucoup plus grande part d'amour. C'est ça l'élévation de la conscience planétaire. C'est-à-dire que de génération en génération, nous apprenons à laisser les jugements derrière nous. Pardonner réellement ton père, ta mère ou n'importe qui a pu sembler te faire du mal, c'est d'étendre cette partie qui croit qu'elle peut être blessée. Parce que, comme tu l'as dit, en définitive, c'est épuisant de juger tout le temps. C'est épuisant. Ma thérapeute disait, mais à vie, tu en as plein le dos. C'est pour ça que les gens courbent les chines. Après toute une vie d'auto-jugement, de sabotage intérieur, qu'est-ce que c'est lourd, hein, j'en ai plein le dos, disent les gens qui vivent ça. Donc renoncer aux auto-jugements, ça passe forcément par sentir le jugement arriver, hein, sentir le « je suis pas digne » arriver. Et puis inverser ce négatif-là en positif. Je mérite le meilleur, je mérite l'amour. C'est un mantra, hein. C'est un mantra, je mérite le meilleur, parce que c'est vrai. C'est vrai au sens du monde d'amour, du monde de l'unité, du monde de Dieu. Nous sommes amour pur, donc nous sommes le meilleur possible. Et sans aucune comparaison, puisque cet amour est maximal et éternel, hein, dans le monde de la réalité. Nous jouons momentanément à expérimenter autre chose. Mais quand je dis je mérite l'amour, je ne fais que refléter la vérité, la vraie vérité, la vérité absolue. Donc, bien sûr, je n'y crois pas, ou pas complètement. Mais quand je le dis, je me rappelle à la vérité. À cette vérité qui est toujours vraie. Donc, c'est ça un mantra. Un mantra porte une énergie qui a une action, et même si je ne crois pas, même si je ne comprends pas les mots du mantra, si c'est du tibétain, du sanskrit, même si je ne crois pas que je suis digne d'amour, le fait de le dire est un rappel à mon esprit juste de la vérité. Hein, c'est une cutie de rappel. Donc, je peux l'écrire sur mon miroir, et puis je peux m'en rappeler tous les jours.
Je rajouterais quand même qu'il est essentiel d'avoir le sentiment dans le cœur quand on prononce une prière, parce que sinon ça ne marche pas. Je le ressens profondément et en plus je suis en train de l'apprendre depuis quelques mois. Greg Braden le dit bien dans La Matrice Divine, ce que l'on est en train de redécouvrir en Occident, c'est qu'il suffit pas de dire les mots pour égrener une prière, ça ne sert à pas grand-chose, je pense. Si on veut obtenir des résultats sur le plan, de sa vie, qu'on a des souhaits, il faut faire comme si c'était déjà advenu. Et il parle de cohérence cardiaque. Je ne sais pas exactement. Je comprends quand j'entends ça que parce que j'ai pas encore étudié ça. Je comprends qu'il signifie qu'il faut créer ce sentiment au niveau du centre du cœur. C'est ça que je comprends, parce que je ne connais pas encore la cohérence cardiaque, dont parlait d'ailleurs David Servan-Schreiber, mais je connais le terme. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Quand je dis la prière du Christ, qu'il y a dans... J'essaye de dire ça tous les matins, le soir j'ai un peu de mal, je m'endors ou j'y pense pas. Je remarque que c'est pas la même chose de le dire uniquement avec ma bouche. Même si je me relaxe, il faut absolument que je contacte. Avant, j'essayais de mettre la conscience entre les deux sourcils. Et maintenant, depuis hier, je mets ma conscience dans le cœur. En fait, je cherchais où mettre ma conscience, je la mettais en haut. Et en fait, je crois que la plus grande énergie vient du centre du cœur. C'est ce qu'il explique. Et c'est ce que je ressens profondément. Voilà, je voudrais dire ça aux gens qui nous écoutent s'ils connaissent pas bien ça. Parce que ça, c'est fondamental parce que notre esprit ou notre conscience, je crois qu'elle fait pas la différence entre l'imaginaire, donc on imagine, j'imagine à quel point ce que je suis en train de dire est déjà arrivé. Par exemple, tu disais je suis aimé, et la première fois que j'ai entendu ça par un prêtre, tu es aimé de Dieu, vous êtes aimé de Dieu, j'ai pleuré. Quand je veux dire la première fois que j'ai entendu, consciemment, j'ai dû l'entendre, j'imagine, quand j'étais gamine. Et mais un jour, il y a 15-20 ans, j'ai pleuré à l'église. Parce que d'un seul coup, j'ai conscientisé que c'était tellement fort, hein, moi qui avais été une enfant qui ne croyait pas aimée, ou pas beaucoup aimée. Et quand il a dit ça, le prêtre, là, j'ai mis toute sa charge. Parce qu'il y a quand même des choses justes dans ce qu'on dit à l'église, il n'y a pas que des bêtises. Et je me disais déjà depuis l'âge de 13 ans, je suis digne de te recevoir et non pas je ne suis pas digne. Je disais je suis digne de te recevoir parce que je ne comprenais pas pourquoi on disait ça. Et d'ailleurs, c'est une ineptie. Voilà, je voulais juste dire par rapport à ce que Avi disait, rajouter ça. Merci.
Oui, tout à fait. Tu viens de dire qu'effectivement, il y a des tas de belles choses dans la Bible et dans l'Église. Dans l'Église, et il y a une célèbre phrase qui est dans les évangiles canoniques qui dit, c'est Jésus qui dit ça, lorsque vous priez, croyez que ce que vous demandez, vous l'avez reçu, vous l'avez déjà reçu. Et alors, bon, c'est vraiment dit comme ça. Mais alors, souvent, on n'y croit pas parce qu'on dit, mais moi je prie, je veux gagner au loto, mais je ne gagne pas. Mais c'est ça. Alors, et là, c'est pour ça que finalement, la clarification avec des mots sert aussi quand c'est l'heure, hein, mais y a pas, c'est utilisé. Alors, qu'est-ce qu'on demande? C'est ça, c'est toute la question. Lorsque vous priez, croyez que ce que vous demandez, vous l'avez reçu. Et dans le courant miracle et dans tous les enseignements, en disant, vous recevez toujours ce que vous avez demandé. Alors on dit, oui, mais quand même, quand j'ai des catastrophes, je gagne pas l'auto, ou je sais pas quoi, ou j'arrive pas à avoir une relation amoureuse, une relation de couple, ou enfin, tout ce qu'on veut. Hein. Oui, mais, et c'est pour ça que c'est pas évident, parce que, oui, je suis créateur de mon expérience. Personne ne peut aller contre moi. On a l'impression qu'on dépend d'un destin, de je sais pas qui, du Saint-Esprit qui est à l'extérieur, etc. Et en fait, il n'y a que l'un. Et donc, l'esprit d'amour, la réalité, ne va jamais contre le désir de notre âme profonde. C'est pour ça que, et c'est très difficile, et ça prend souvent beaucoup de temps pour pouvoir en prendre conscience, qu'on est totalement maître à bord. On a choisi notre expérience. Il ne peut pas en être autrement à cause de qui on est, justement. Parce qu'il n'y a que Dieu. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Et on se dit, oui, mais alors, comment ça se fait? Puisque moi, j'ai mes croyances. Moi, j'ai l'impression que je suis victime. J'ai l'impression que mes parents étaient vraiment très durs avec moi et j'ai souffert, j'ai des blessures, etc. Oui, oui, ça, c'est pas nié. Mais en fait, on va s'apercevoir, ça peut prendre beaucoup de temps, qu'en fait, c'est un jeu d'amour qui a été fait une nouvelle fois, dans une nouvelle incarnation, pour me permettre de me libérer de ça et de dire, mais non, c'était de l'amour. Ce jeu, cette relation apparemment très difficile, houleuse, apparemment méchante, eh bien, elle a été voulue au départ par les deux âmes pour pouvoir se libérer. C'est très difficile d'admettre ça. Mais ça prend son chemin. Neil Donald Walsh, qui est un grand banquier, et tu le connais très bien, eh bien, il a un petit livre qui s'appelle La petite âme. Il a fait un petit livre à part, l'histoire de la petite âme. Eh bien, c'est pas rien son histoire, parce que c'est exactement ça, mais ça raconte, bon, c'est une allégorie, d'une petite âme qui est justement dans l'amour, au paradis, on va dire, et qui dit, moi, je veux vraiment expérimenter l'amour, mais vraiment à un point formidable. À ce moment-là, une autre petite âme ici, pleine d'amour, qui arrive et qui lui dit, ben écoute, puisque tu veux vraiment expérimenter l'amour, eh bien, dans ta prochaine vie, je vais venir et je vais te faire quelque chose d'atroce, de vraiment méchant, de vraiment dégueulasse. Mais surtout, surtout, au moment où je vais te faire ça, si tu veux vraiment expérimenter l'amour, n'oublie pas qui je suis. N'oublie pas que je ne suis qu'amour. C'est ça le grand défi. C'est difficile à comprendre. Et pourtant, tout son livre, le livre de Donald Walsh, c'est ça, l'histoire de la petite âme. Mais au début...
Elle était que dans la lumière, elle s'éveille. Et elle ne voyait pas l'ombre.
J'ai le souvenir, puisque j'ai étudié pendant 3 ans conversation avec Dieu, avec d'autres, qu'elle était dans la lumière permanente, cette petite âme, qu'elle ne voyait pas, elle n'avait pas conscience de l'ombre. Et elle voulait connaître l'ombre. Et que si on n'est que dans la lumière, on ne peut pas savoir ce que l'on est, puisqu'on n'a pas d'opposé. On ne peut prendre conscience de qui l'on est que par rapport à quelque chose ou quelqu'un d'autre. Bon, ça va, là, moi je crois que j'ai bien compris à ce niveau-là.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des grandes questions. Pourquoi est-ce qu'on perpétue ce jeu? Certains disent c'est parce que c'est la joie d'en sortir, comme on disait tout à l'heure, c'est le poisson qu'on sort de l'eau et qui a la joie d'y retourner. Puis en même temps, certains êtres disent mais c'est pas nécessaire. Effectivement, rien n'est nécessaire. C'est un jeu amoureux et en fait, on ne peut le comprendre vraiment que quand on en sort, quand on en est sorti, et quand on en sort, et c'est ça qui paraît absurde, je sais ça peut paraître absurde, on se dit mais il s'est rien passé, parce qu'on n'est jamais sorti de l'eau. C'est ça, c'est pour ça que c'est pas évident. Donc quand on parle de dualité, quand on parle d'illusion, ça peut aider certains, ça dépend des moments, d'autres ça les aide pas. Le cours en miracle, beaucoup de gens disent, ben moi je l'ai eu gardé pendant 1 an, 2 ans, j'ai pas ouvert, puis tout d'un coup un jour, je sais pas pourquoi, je l'ai ouvert, ça m'a parlé. Ou au contraire, certains disent, ben moi je l'ai étudié, puis finalement je l'ai jeté, puis ce n'est que 2 ans après j'ai regardé. Ou au contraire, moi je suis jamais retourné le voir. Il y a tout ça, on le sait. Donc on s'aperçoit qu'on est dans un processus. Ou qui est mené par l'esprit, où chacun fait ce qu'il peut, et que finalement le processus il est hautement individualisé, c'est-à-dire qu'il est différent pour chacun, mais le but est le même, c'est le réveil à qui nous sommes, c'est le réveil à qui nous sommes.
Quand tu dis mené par l'esprit, tu ne parles pas de mental, ni d'intellect, tu parles l'esprit divin, c'est-à-dire le cœur.
Je dis que je parle des circonstances qui sont menées par l'esprit. C'est-à-dire que c'est le jeu qui est mené par l'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune relation au hasard. Quand le cours en miracle dit, par exemple, mais il n'y a pas que le cours, parce que même Einstein disait ça, le hasard, c'est Dieu qui veut passer incognito. Ou quand le cours en miracle le dit, le hasard ne joue aucun rôle dans le plan divin. Ou dans cette fameuse leçon 135, la fameuse phrase qui est répétée, c'est que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout événement, tout ce qui arrive, passé, présent et futur, est planifié avec amour et bienveillance par l'un avec un U majuscule, par quelqu'un avec un Q majuscule, par l'un, l'esprit, par l'esprit on va dire, dont le seul but est ton bien. Donc tout ce qui se passe, c'est dans notre intérêt. C'est une leçon très difficile à apprendre, C'est pas évident, parce que quand on a une relation difficile avec ses parents, etc., savoir que c'est fait dans notre intérêt, c'est pas évident. Donc c'est difficile.
Ça, c'est une question qui, pour moi, que je me pose régulièrement, moins parce que je sais que mon âme, d'après les enseignements, ont choisi la matrice dans laquelle je suis née et le couple de mes parents. Mais comment, par exemple, un petit enfant qui naît et qui meurt de faim à l'âge de 3-4 mois, 4 ans, 3 ans, qui meurt de maladies graves, comment est-ce que cette âme... Pour moi, c'est incompréhensible. Ou des enfants qui vivent des guerres ou des viols ou des femmes qui se font violer ou des hommes qui se font maltraiter, torturer, les génocides. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment j'ai pas de réponse.
On peut dire qu'il n'y a pas de réponse parce qu'effectivement il n'y a pas d'erreur et l'âme profonde, l'âme a choisi. L'âme, elle est en paix tout le temps. L'âme, c'est la partie divine qui n'est que paix, que joie. Et donc, elle s'amuse à faire l'expérience. Mais avec le mental, on ne peut pas comprendre ça. Et d'ailleurs, en plus de ça, ce n'est pas nécessaire. C'est pour ça qu'on parle de pardon. Et que là, je suis en train de parler, et j'ai envie de m'arrêter de parler, et de redonner à chacun la réalité divine qu'il est. Et c'est ça le pardon. Et à ce moment-là, tout ce qui se passe... vraiment disparaît, c'est-à-dire que je sais que c'est vécu comme réel par beaucoup de frères et sœurs, mais au moment, c'est ce que le cours appelle un instant saint, au moment où je reprends conscience de ça, quelque part, je transcende le temps et l'espace, mais c'est une façon de parler. Hein. Ça passe par un silence, ça passe par un accueil, ça passe par l'amour, qui est totalement inexplicable par des mots. C'est simplement comme ça. Parce qu'effectivement, c'est absurde. Ça n'a pas de sens, personne ne veut souffrir. Et quand on dit qu'on a choisi son expérience, on n'a pas choisi de souffrir. Donc un enfant qui va mourir en bas âge ou qui va être blessé, effectivement, l'âme a choisi son expérience. J'ai eu des tas de témoignages comme ça, où on m'a parlé d'incarnation de gens que je connaissais qui avaient vécu des vies précédentes, où ils étaient enfants, par exemple mendiant en Espagne, mort à l'âge de 10 ans, c'était des choses comme ça. Et puis... effectivement, chaque être choisit son expérience. Il ne peut en être autrement à cause de qui nous sommes. Mais on n'a pas choisi de souffrir. Donc il y a comme un défi. On dit, mais comment ça se fait qu'on revient puisque à chaque fois on souffre? Et là, il n'y a pas de réponse. C'est que là, il n'y a pas de réponse. Il y a quelque chose de totalement incompatible entre le monde de la réalité et le monde illusoire. Et on ne peut pas concilier les deux. C'est pas évident tout ça. Voilà, alors le cours en miracle nous dit... vous ne pouvez pas avoir deux mondes. Vous voyez l'un ou l'autre. Ils s'excluent mutuellement. Donc le monde de la réalité et le monde de l'illusion s'excluent totalement. On voit soit l'un, soit l'autre. La plupart des gens ici voient le monde de l'illusion puisqu'on a choisi de s'amuser à cette expérience. Ça, c'est pas nier. Au départ, c'est un jeu. Hein. Et puis peu à peu, on est piégé, on s'amuse plus du tout, c'est vrai. Donc c'est pas évident de parler de ça.
Disons que moi, dans ma vie, depuis, on va dire, 3-4 ans, enfin, je commence à essayer de créer ma vie davantage. J'ai commencé il y a plus que ça, mais j'ai fait une longue thérapie. Bon, après, je me suis aperçue qu'analyser, on pouvait faire ça toute sa vie. Et que finalement, il n'y avait pas grand-chose qui changeait fort dans ma vie, même si ça m'a quand même beaucoup, beaucoup apporté, la thérapie analytique. Donc, petit à petit, je vais vers d'autres formes d'expérience. Et voilà, j'ai envie de plus en plus d'être dans la création. Je ne parle pas forcément artistique, parce que je fais du chant. Donc ça, je sais que je crée quand je chante. Mais je parle de créer ma vie, à savoir sortir de l'état de victime dans lequel j'ai été pendant de nombreuses années, un peu malgré moi. Enfin, c'était comme ça, il y avait de la plainte, il y a eu le temps de la plainte, beaucoup de temps de plainte. En plus, il s'est passé que sur notre terre, pendant des années, voilà, c'était comme ça, la thérapie, on se plaignait beaucoup. Ça a duré très longtemps, et puis même si j'ai pas fait que ça, hein, il y a eu des très belles choses, j'ai de la gratitude d'avoir fait ce chemin-là. Ça a duré un peu beaucoup de temps, mais bon, c'est une vingtaine d'années, mais bon, c'était comme ça, je peux pas revenir en arrière. Et maintenant, j'ai vraiment envie de devenir adulte. Alors ça paraît vieux, hein, puisque j'ai plus que 50 ans, ça paraît long, mais dans Conversation avec Dieu, Dieu dit, celui qui parle dit, que les hommes sur la Terre sont rarement adultes avant l'âge de 50 ans, donc ça me rassure. Ça me faisait rire quand j'avais 40 ans et que je lisais ça, je me disais, oh là là, quand même, il exagère peut-être. Mais je crois qu'il n'exagère pas tant que ça pour les gens de nos générations, en tout cas. Peut-être que les nouveaux êtres humains vont être adultes plus tôt, je ne sais pas.
Oui, au sujet de ces chiffres qui sont donnés, en fait, ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de ne pas rentrer dans les statistiques et dire peut-être que la plupart des gens dorment, mais moi, je ne veux pas dormir. Je prends ma place. Je choisis, moi, de me réveiller. Je choisis l'amour. Ok, mes frères et sœurs choisissent ce qu'ils veulent. Je les respecte totalement. C'est ça, l'amour, d'ailleurs. Donc, c'est intéressant, parce que tout est intéressant, mais on peut dire aussi que ça peut être des pièges, un peu comme fait la médecine ou les médecins qui vous disent, voilà, vous avez un cancer, vous avez 70% d'y passer. On n'est pas des statistiques. Et d'ailleurs, de plus en plus, on dit, mais moi, non, moi, je suis pas une statistique. Je fais ce que je veux. Les règles changent, et je décide. Et c'est pour ça que le cours dit, par exemple, Jésus, dans le cours en miracle, dit, combien il en faut pour sauver le monde ? Un seul suffit. Un seul suffit. C'est fort de dire ça. C'est une question de vision. Pourquoi est-ce qu'un seul suffit ? C'est pour ça que finalement le rôle, et là on le voit dans le texte du cours, le rôle de cet être Jésus qui est venu il y a 2000 ans, dans sa dernière incarnation, il était venu avant, dans les énergies, mais dans des rôles, dans un jeu qui est globalement joué par nous tous, je dis bien globalement joué par nous tous, il a eu un rôle très très fort. Et donc, et il dit, et c'était le premier homme à atteindre vraiment l'état christique. Alors on va dire, mais il y a Bouddha qui est venu 400 ans avant, ok. Mais Bouddha s'est réincarné après. Il est revenu une fois de plus. Mais enfin, ça c'est pas l'importance. Ce qui est important, c'est nous, qu'est-ce que nous faisons. Et le un seul qui suffit pour sauver le monde, on est appelé à dire, mais c'est moi. C'est vraiment moi. Parce que nous sommes un. Et c'est pour ça qu'il y a un paradoxe. C'est qu'en même temps, on est appelé à travailler les uns les autres pour nous aider les uns les autres à nous réveiller. Et en fait, Jésus dit, moi je suis venu, j'ai transcendé le monde, et donc le travail est fait. C'est fait. Je l'ai fait pour tout le monde. Voilà ce qui est dit. Donc ça paraît difficile à croire, mais c'est très profond. Et quand on ne sait pas ce que ça veut dire, on dit, ben moi je ne comprends pas. Moi, c'est pas évident tout ça. C'est pas évident. Oui, il n'a pas été compris. C'est vrai que son message, l'essence de ce message a été très mal compris.
L'essence de son message a surtout été complètement dénaturée. Greg Braden le dit, mais je le savais depuis bien avant Greg Braden, quand j'avais 20 ans, je le savais déjà, ou 24. La Bible a été complètement dénaturée, puisqu'on en a expurgé 45 livres, d'après ce que dit Greg Braden. Enfin, il suffit d'aller voir, j'irai sans doute me balader un jour là-bas, dans la bibliothèque de Nakamadi. En Occident, les textes, enfin en Occident et Moyen-Orient, les textes ont été incroyablement trafiqués. Tous les textes de femmes ont été systématiquement détruits, enfin ou mis de côté. Et donc, quand tu dis que bon, il en suffit d'un, encore faut-il. Moi, je pense que c'est une image quand il dit il en suffit d'un. Je pense que c'est plutôt peu de gens sont nécessaires. Bon, c'est ce que je pense. Je pense que sur 7 milliards, hein, c'est pas beaucoup, mais bon, je pense que c'est une image symbolique. Ça veut dire qu'il en faut peu pour faire bouger les choses. Il n'y a pas besoin que 7 milliards de gens bougent. Ou que 7 milliards dorment et un se réveille, ça me semble peu, mais je comprends bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin que tout le monde se mette en mouvement, il s'agit de prendre la décision au fond de son cœur et d'y aller. Enfin, moi, je n'ai pas eu besoin de l'apprendre, ça s'est fait. Alors, je pense que c'est là où mes parents m'ont donné un grand, grand cadeau, c'est que, avec cette maltraitance que j'ai vécue comme telle, en tout cas, oui. Oui, j'ai eu aussi beaucoup de transmissions et je n'ai eu de cesse de chercher ce que c'était que l'amour, puisque quand j'étais petite, mon père m'a dit, je l'ai entendu dire, ça n'existe pas, l'amour. Donc c'était une grande claque dans la figure, c'était très douloureux, ça plus d'autres choses, et je n'ai eu que de cesse de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'était comme une blessure, parce que y avait bien des gens qui s'aiment, pas trop dans ma famille. Donc finalement, en voulant me dire quelque chose de négatif, finalement, moi, ça m'a propulsée. C'est ça que je vois maintenant. Je ne l'ai pas vu quand j'étais plus jeune. Hein. C'était pas possible. C'était trop dur. Et maintenant, je suis fière parce que je peux me faire un compliment malgré toutes ces embûches, ces obstacles, cette souffrance. Maintenant, c'est quand même beaucoup derrière moi, même si il en reste encore des traces certaines. Et je me saisis du cadeau que mes parents m'ont donné par la littérature, par la peinture, par la médecine naturelle, par les pratiques énergétiques que mon père faisait, pour me dire que il a pu me donner de l'amour comme ça, même s'il savait pas être affectueux du tout, même s'il savait pas me dire des mots « je t'aime » jamais, prendre dans les bras non plus. Il a pu me donner des choses par son enseignement. C'est comme ça qu'il a pu le faire. Il savait pas, paix à son âme, il a fait ce qu'il a pu. J'essaierai de faire mieux. J'ai essayé de faire mieux avec mes propres enfants. C'est pas sûr que j'y sois arrivée, mais je pense que j'ai fait mieux quand même. Voilà.
Ouais, je reviens sur cette notion de texte utilisé. Ça a été expurgé. Il y a une autre chose aussi qui s'est passée, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de rajouts qui n'ont pas de sens. Il faut bien savoir ça. Mais c'est ce que ne voient pas aussi beaucoup d'exégètes qui... Et on a un très bon exemple avec le livre de Gary Renard, son deuxième livre, qui est votre réalité immortelle, avec Arten et Purcha qui nous donnent des informations de premier ordre. Et justement, tu parlais des manuscrits de Nag Hammadi, des 9000 manuscrits qui ont été découverts entre 47 et 49. Le fameux évangile de Thomas, qui a 114 logions, qu'on a retrouvé dans les jarres, en fait, c'est un manuscrit qui était plus de 300 ans après Jésus-Christ. Et en fait, ce que nous disent Arten et Purcha, cet évangile de Thomas, il a 114 logions, c'est-à-dire 114 petites citations. Jésus a dit, des paraboles, etc., des choses comme ça. Des choses très courtes, qui ont 4-5 lignes chacun en moyenne. Bon. Eh bien, sur les 114, il y en a 70 qui sont authentiques, il y en a 44 qui ont été rajoutés, qui ne sont pas du tout des choses que Jésus a dites. Et ça, c'est extraordinaire. Et on a, puisque Arten et Purcha dictent à Gary Renard les 70 qui sont réels, avec des numéros précis, et effectivement, ça change tout. Et donc, on est invité à faire attention avec les textes, et c'est pas parce qu'un texte nous est donné, ce texte a été trafiqué. Non seulement il y a eu des textes qui ont été éliminés, mais aussi des textes où il y a eu des rajouts qui n'ont rien à voir avec le message christique, le message originel. Et par exemple, l'évangile de Thomas, le dernier logion, le numéro 114, eh bien, quelque part, il dit, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il dit, je n'ai pas les mots là en tête, mais il dit que l'homme est inférieur, pardon, que la femme est inférieure à l'homme, ce qui n'a aucun sens. Voilà. Alors donc, c'est clairement, évidemment, quelque chose que Jésus n'a pas dit. Donc, attention avec les textes, écoutons notre cœur, lisons tout ce qui nous parle, c'est bon. D'ailleurs, on est toujours invité à ça maintenant, prendre par son cœur, écouter et remercier, parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc ce qu'on absorbe, mais on l'absorbe maintenant avec du discernement. Hein, il n'y a rien d'automatique. Tout comme ça. Et même, je dirais, tout ce que je peux dire, tout ce qu'on peut entendre, on est invité à écouter notre cœur, qui est notre vraie boussole. C'est le cœur qui nous guide.
Alors, le vrai défi de l'humanité, c'est un processus qui semble progressif, et qui relève ce défi incroyable de se réveiller au milieu de la plus grande noirceur, qui dit, lorsque ton père Claire dit « l'amour n'existe pas », alors, avec cette phrase en forme de vérité qui est prononcée, qui enfonce un petit peu l'esprit qui apprend dans la noirceur, dans l'éloignement de l'amour, Alors avec cette contre-vérité, pouvoir se fonder sur notre vraie nature pour se relever et puis proclamer que seul l'amour existe. C'est pour ça que le défi est incroyable. C'est pour ça que ces rencontres-là, telles que parents-enfants, ce défi, ces phrases qui sont prononcées, malgré le décalage entre qui nous sommes et ce que nous vivons, malgré ça, je dirais même que c'est un rendez-vous entre ton père et toi pour tirer sur l'élastique, hein. Et maintenant, si je te fais sortir encore plus de l'amour, est-ce que tu vas y retourner de toi-même, hein? Et en vérité, c'est ce qui se passe. Tu entends l'amour, ça n'existe pas, et au lieu de t'enfoncer dans la noirceur de « nous sommes dans un monde sans amour », au contraire, ta quête, ça devient « je vais prouver par mon vécu que ce que tu dis n'est pas vrai ». Et donc, pour moi, c'est un contrat d'âme, ça. La petite âme de ton père, comme dit Neil Donald Walsh et Sylvain, a conclu le contrat avec toi, qui dit « tu vas voir dans ta vie, je vais te proposer les circonstances où il n'y a aucun amour. Et ton rôle à toi, ça va être de me faire mentir. Ça va être de montrer le contraire. » Et donc, le but, c'est l'amour. Dans la noirceur, le but, c'est l'amour. Hein. Et comme je disais, de génération en génération, avec par degré l'élévation de conscience, on a hérité de la psychothérapie pour mettre les choses en conscience et puis aller de mieux en mieux et puis arrêter de léguer à nos enfants l'héritage souffrant du passé. Même si à notre échelle ça prend du temps, des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'années, ce réveil-là, il est inévitable. Hein, il est inévitable et au final, c'est notre vraie nature qui est l'amour ne peut pas être masquée indéfiniment. C'est comme si le feu couvait en dessous et il y a une phrase d'une des cultures qui dit le papier ne peut pas envelopper la braise. Je trouve que c'est très joli. Parce que le papier s'enflamme. Hein. Donc on ne peut pas, avec un petit bout de papier, recouvrir une braise et dire il n'y a pas de feu. Donc le feu, c'est l'amour qui est notre nature. On peut le voiler, on peut mettre autant de couches de croyances qu'on veut par-dessus. À aucun moment, ça ne signifie que l'amour n'existe plus. Et notre mission, notre rôle sur Terre en tant que ceux qui expérimentent ça, c'est de retrouver cette perception de l'amour malgré tout l'environnement qui semble dire le contraire. Et c'est pour ça que tout ce que nous vivons peut sembler atroce, tout ce que la Terre vit, les génocides, les viols, y compris les enfants qui meurent dans des tremblements de terre, les bébés innocents. Le vrai sens de la première question, le pardon, c'est que ça n'existe pas parce que ça se passe dans un monde imaginé. Ça ne s'est pas réellement passé. Nous créons les circonstances qui font que nous croyons que c'est vrai. Mais en vérité, en tant qu'esprit, et quand je dis esprit, c'est esprit divin, hein, personne ne meurt, surtout pas l'esprit, puisque l'esprit est immortel. Nous créons des véhicules qui sont les corps humains, qui sont dans l'illusion, nous les fabriquons pour servir de support, d'outils à l'expérience de retour à l'amour, mais ce ne sont que des outils temporaires qui ont un début et une fin. Et ceux-là ne sont pas réels. Seulement l'expérience, elle, est réelle. Hein, l'expérience de partir de l'ombre et d'arriver à la lumière ou d'embrasser les deux. Donc c'est le sens de ce que tu croyais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Dans la réalité divine, ça ne s'est pas produit. Dans notre réalité à nous, relative, ça s'est produit. Mais on se rappelle qu'il y a deux niveaux de perception. Hein. Il y a ce que j'imagine être un monde sans amour, qui n'est pas un monde qui existe réellement, qui est seulement en esprit, et le monde réel, qui est la réalité de Dieu, dans lequel personne ne peut mourir, personne ne peut t'offenser, personne ne peut te blesser, parce que c'est effusion d'amour en permanence. Donc, resituer ça dans le contexte, le vrai pardon, c'est appréhender une situation depuis l'amour, depuis l'unité, et seulement depuis ça. Et dans ce but-là, dans ce contexte-là, ton père, en te disant « l'amour, ça n'existe pas », t'a donné de l'amour, d'une manière très déguisée. T'a donné un piédestal pour prouver le contraire, mais c'est un acte d'amour. Qui ne semble pas être un acte d'amour. Mais la preuve, c'est que tu as rebondi pour aller vers plus d'amour grâce à ça. Et donc l'amour prend des formes déguisées pour nous stimuler. Hein. Et en dessous de ce que tu perçois comme étant ton monde réel, il y a les âmes qui n'agissent qu'au nom de l'amour. Hein, je vais te stimuler en te disant des choses affreuses et toi, tu vas me montrer que tu es capable, malgré tout ça, de dire « je suis pur amour ». Hein, c'est ça le rôle de nos vies sur Terre. Voilà, on va s'arrêter là pour l'enregistrement. Vraisemblablement, il y aura un groupe dimanche prochain, dans lequel Raymond Gauthier viendra. C'est à confirmer, je le confirmerai. Celle qui a appris qu'elle avait un cancer et a décidé de proclamer la vérité de qui elle est au-delà de ça. Et puis commence à enseigner ça maintenant à travers des conférences. Voilà, donc vraisemblablement, elle m'a dit qu'elle pourrait être là. Pour moi, c'était pas encore certain que je puisse organiser le groupe, mais maintenant, ça l'est. Tout ça sera confirmé très prochainement. J'aimerais beaucoup aussi inviter Jeanne Renaud Boutreux, qui est dans une situation similaire. Une personne soutient Ibrahim, un Palestinien, pour sa cause, pour la paix, et qui devait aller en Israël, rencontrer Ibrahim, et elle a été voir son généraliste, et son généraliste lui dit « vous ne pouvez pas voyager, vous devez passer des analyses qui ont démontré une tumeur cancéreuse, voilà. Et puis depuis ce moment-là, Jeanne vit un renversement de situation incroyable et d'un optimisme démesuré, quelque chose d'absolument incompréhensible. Et elle a une patate, voilà. Donc j'aimerais beaucoup qu'elle puisse être là, mais ça va dépendre de ses possibilités, parce que pour moi, les miracles sont légion et commencent à montrer que c'est seulement notre perception qui nous dit nous sommes malades ou nous sommes guéris, hein, et que la vraie guérison, c'est l'esprit, c'est revenir à l'esprit divin et c'est pas guérir le corps, hein, c'est vraiment changer de mode de pensée. Hein. Si je me dis intérieurement je suis vulnérable, je suis vulnérable, je suis vulnérable, mon corps me dit ok patron. Hein, tu veux un cancer, allons-y. Tu veux faire cette expérience pour retrouver l'amour, allons-y. Et parfois, ça peut être la planche de salut, cette maladie qu'on appelle grave et mortelle, pour changer de perception, justement. Voilà, je sonne la fin du groupe et puis je vous dis très probablement à dimanche prochain à la même heure.